Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, un fleuve chargé d'histoire, le Nil. L'Égypte est un don du Nil. Hérodote. D'histoire. Quand, il y a 2500 ans, Hérodote rappelait tout ce que l'Égypte doit au Nil, personne ne savait encore où il prenait sa source, ni que ce fleuve, le plus long du monde avec l'Amazone, traversait aussi l'actuel Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique des Grands Lacs, où il est né, à 600 km au sud des pyramides des pharaons. Depuis Lucie, morte il y a plus de 3 millions d'années, tout près de ses sources, jusqu'aux Égyptiens, aux Éthiopiens et aux Soudanais d'aujourd'hui, le Nil est un fleuve chargé d'histoire. Il a vu passer les armées de Ramsès II et d'Alexandre le Grand, de Jules César et de Saladin, de Bonaparte et de la reine Victoria, mais aussi des savants et des explorateurs qui, pendant des siècles, ont cherché en vain les sources de ce fleuve, auprès duquel sont nés et se sont affrontés quelques-unes des plus anciennes civilisations et des plus grandes religions du monde.
Ton mari est dans le royaume des morts.
Il a demandé au dieu du Nil de m'envoyer ce bel enfant.
Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin.
Je suis la fille du pharaon. Et voici mon fils. Il sera la gloire de l'Égypte, mon fils. Et sa puissance en parole et en action. Les rois s'inclineront devant toi. Ton nom survivra aux pyramides elles-mêmes. Et... que je t'ai sauvé des eaux, je t'appellerai Moïse.
Moïse.
Bernard Nantais, bonjour.
Bonjour.
Alors Moïse sauvé des eaux, ça fait partie de toutes les légendes et de l'histoire de ce fleuve, du Nil, dont vous, auquel vous avez consacré un livre publié aux éditions du Félin, l'histoire du Nil. Alors c'est un fleuve évidemment qui est unique au monde, vous le rappelez, non seulement par sa longueur, puisqu'il fait plus de 6000 kilomètres de long, il a à peine, je crois, 100 kilomètres de moins que l'Amazone, autrement dit, il est aussi long que le plus grand fleuve du monde.
Mais disons, ça ne compte pas.
Ça ne compte pas. Alors il y a aussi le fait qu'il traverse un désert, c'est quand même assez rare pour un fleuve, hein, en perdant de l'eau, mais pas tellement, c'est un fleuve puissant. Mais alors surtout, et c'est ça qui est très original dans votre livre, quand on parle du Nil, quand on pense à l'histoire du Nil, on pense tout de suite à l'histoire des Égyptiens. Or, vous rappelez que ce fleuve, on n'a su que très tard, mais il est né très très loin au sud de l'Égypte, et que c'est un fleuve avant tout africain. Vous reprenez la phrase d'Hérodote qui disait « l'Égypte est un don du Nil », mais vous rappelez que le Nil est un don de l'Afrique, Bernard Nantais.
Le Nil est un don de l'Afrique et c'est grâce au Nil que l'Égypte existe, en effet. L'Égypte, les populations de la vallée du Nil sont originaires du Sahara, comme chacun sait, il y a à peu près 6000 ans. Quand le Sahara a commencé à se désertifier, les populations ont été chassées les unes vers l'est, y compris celles du Sahara qui bordaient la mer Rouge ont été chassées vers l'ouest et vers le sud. Alors vers le sud, il y avait le Niger, vers l'est, il y avait le Nil, et le Nil à cette époque était très en eau, il y avait beaucoup plus d'eau que maintenant, mais au fur et à mesure que la désertification s'est faite, les populations ont pu s'installer, et du fait qu'il y avait ici un fleuve qui coulait en abondance tous les jours de l'année avec une régularité formidable, des crues qui fertilisaient les bords, les gens pouvaient bénéficier de la sécurité alimentaire tout au long de l'année que n'avaient pas ceux qui s'étaient réfugiés sur les berges du Niger, où il y a une saison sèche de 6 mois par an.
Oui, c'est en cela que le Nil est aussi unique, non seulement au monde, mais en Afrique, parce que le Niger n'a pas vu s'installer des civilisations aussi durables, aussi brillantes que la civilisation, bien sûr, égyptienne. En quoi est-ce que, justement, comme disait Hérodote, l'Égypte est un don du Nil? D'abord, vous venez de le dire, Bernard Nantais, pour l'agriculture.
pour l'agriculture, parce qu'on peut faire une, deux, voire trois récoltes par an dans certains endroits, du fait que le régime du Nil est très diversifié. On a les crues qui viennent d'Afrique centrale à une époque. On a d'autres crues beaucoup plus abondantes qui viennent du plateau éthiopien, qui fournissent le limon nourricier.
Oui, parce que les crues, c'est pas des catastrophes.
Les crues, c'est pas des catastrophes.
C'est très attendu tous les ans, voilà. dans l'Égypte des pharaons.
Non, on les attendait.
Elles avaient le limon.
On savait qu'elles arrivaient au Caire, ou disons au niveau du Caire, disons avant juillet, et les gens s'y attendaient. Les gens cultivaient non pas par irrigation comme on le pense, mais par inondation. C'est-à-dire que le limon submergeait l'ensemble, après il se retirait, l'irrigation est venue bien plus tard.
Alors ça explique l'apparition d'une population sédentaire, mais aussi, parce que c'est un don du Nil, si on peut dire également, d'un État qui est indispensable, évidemment, vous le rappelez Bernard Nantais, pour répartir, d'abord pour régulariser ce cours du Nil, pour y construire des digues quand c'est nécessaire, et pour répartir, bien sûr, la production agricole.
Le fait que les gens aient pu bénéficier d'une production agricole régulière, ça a généré, ça a produit des pouvoirs qui se sont constitués, qui se sont régularisés, qui sont devenus très forts et qui ont été mis en place pour s'occuper de tout cet ensemble-là. Mmh.
Pour défendre bien sûr la population égyptienne contre les invasions qui pouvaient évidemment pousser les voisins des Égyptiens convoitant le Nil à venir s'y installer, l'État également qui va construire grâce au Nil, qui va construire ses capitales, Memphis, Thèbes, plus tard Alexandrie, mais c'est là aussi grâce au Nil. Le Nil également a joué un rôle parce que c'était un moyen de communication, Bernard Nantais.
Oui, parce qu'on avait d'une part les nomades qui cherchaient à s'emparer des greniers. Bon, tout ça, si vous voulez, ça fait en sorte que l'État s'est constitué. Et après, pour manifester leur importance, les gouvernants ont voulu construire des palais, ont voulu se faire des grandes sépultures, des grandes tombes. Ça a été les pyramides. Mais pour amener toutes ces pierres, on ne pouvait pas les amener par roulage sur le sable. C'était grâce au Nil. C'est grâce au Nil qu'on a pu amener les pierres.
Oui, parce qu'elles venaient très en amont de Nubie.
Elles venaient en amont pour certaines. Ouais. Et même de pas très loin pour d'autres, mais il fallait quand même les transporter.
Et puis alors, sur des bateaux, qui eux-mêmes sont construits avec des roseaux du Nil, décidément, on lui doit tout à ce Nil, et puis alors aussi, il y a toute une culture égyptienne, il y a l'écriture sur des papyrus, le papyrus, dites-vous, c'est le seul endroit, le Nil est le seul endroit au monde où on en trouve, et les premiers écrits sur papyrus, eh bien, sont égyptiens.
Les premiers écrits sont égyptiens sur papyrus, alors qu'en Mésopotamie, on écrivait sur de la terre glaise qu'on faisait chauffer, qu'on faisait... Ça donnait la céramique, quoi, c'est ça.
En tout cas, l'Égypte, le Nil, enfin l'Égypte doit tout justement au Nil, y compris d'ailleurs sa religion, avec des dieux qui viennent ou qui sont nés souvent sur le Nil.
Que la bénédiction du dieu Amon-Ra soit sur toi, grand prince. Nous savons comment tu as eu recours aux ibis sacrés du Nil pour détruire les serpents lancés contre toi lors du siège de la ville de Saba. Seigneur, je vous apporte l'Éthiopie. Divin maître, ici est mentionné le détail du tribut payé par l'Éthiopie. En ce moment, voguent sur le Nil 80 bateaux chargés de richesses telles que celles-ci. Des blocs d'ébène, des tissus précieux qui orneront votre nouvelle cité.
Et c'était un autre extrait du film de Cécile B. DeMille, Les Dix Commandements, où il est question de l'Éthiopie. Je crois que à l'époque de Ramsès II, on ne parlait pas encore de l'Éthiopie, Bernard Nantais.
On ne parlait pas de l'Éthiopie parce qu'en amont du Nil, il y a des marais impénétrables, infranchissables, et l'Éthiopie, bon... En fait, l'Éthiopie, c'est un mot qui vient des Grecs, et qu'on a ensuite associé aux Abyssins, à l'Abyssinie, au plateau qui était bien au-delà du Sud-Soudan, et qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, auquel on abordait seulement par des bateaux qui descendaient la mer Rouge.
Oui, on ne longeait pas le Nil, puisqu'on ne pouvait pas le remonter, vous pouvez pas le dire. Remonter. Mais c'était par la mer, effectivement, par la flotte maritime, si je puis dire, des Égyptiens, qu'on arrivait dans ce qu'on appelait aussi le pays de Ponte, je crois.
Le pays de Ponte, c'est là où on allait récolter l'encens, les plumes d'autruche, pour ennoblir les temples, pour faire brûler, pour les dieux, pour tout ça. C'était le... ça venait du pays de Punt.
Jusqu'où les Égyptiens pouvaient-ils remonter le Nil? Parce qu'il est, il est justement bloqué par des cataractes, Bernard Nantais.
En fait, on dit cataractes, c'est pas des chutes d'eau, c'est des rapides. Donc il y avait une série de biefs, c'est-à-dire des parties entre lesquelles on pouvait naviguer. Ensuite, par portage, on montait les marchandises sur le bief supérieur, mais on était vraiment bloqué par les marais du Sud-Soudan. Et là, c'était absolument impénétrable.
Le Soudan, qui lui-même faisait partie, au fond, de l'empire des pharaons. Ce qu'on appelait la Nubie,
le Soudan,
ça
non, la Nubie est beaucoup plus au nord, si vous voulez, que le pays de
qu'est-ce qu'on appelait la Haute Égypte, parce qu'on disait que
ce qu'on appelait la Haute Égypte, c'était aux environs d'Abou Simbel, par ici, mm-hmm. par là, mais beaucoup plus haut, c'était le Soudan. Et là, le pouvoir égyptien n'a jamais vraiment pu s'installer, sauf pendant des périodes très brèves, parce qu'il y avait les nomades, parce qu'il y avait déjà des royaumes qui étaient là, et c'était beaucoup trop loin à l'époque.
Parmi ces royaumes, d'ailleurs, vous en citez un qui est relativement peu connu, qui est pourtant à l'origine de ces grandes civilisations, qui était indépendant, qui était devenu indépendant très bien longtemps avant notre ère, qui était, je crois, le royaume de Kouch, Bernard Nantais.
Le royaume de Kouch, on a appelé Kouch un ensemble de petits royaumes qui étaient au niveau du Soudan, juste à la frontière du Soudan. Et c'était un nom générique en quelque sorte pour nommer les royaumes de cet endroit-là qui ne voulaient jamais faire allégeance, sauf par la force, au pharaon.
Et qui est dans la capitale, c'était Méroé, c'est ça?
Méroé, c'était encore beaucoup plus tard, plus proche de nous.
Ouais.
Plus proche de nous.
C'est tellement étendu, c'est ça le problème. L'Égypte, on oublie toujours que l'histoire de cette antiquité égyptienne, elle a duré plus de 3000 ans quand même. C'est assez phénoménal, et qu'il y a plus de distance qui sépare cette période-là, les grandes pyramides de Khéops, de Cléopâtre, que de distance qui nous sépare, nous, de Cléopâtre. Il y a 3000 ans contre 2000. C'est extraordinaire, la longueur, justement.
Oui. On a du mal à s'en rendre compte parce qu'il y a un aplatissement de l'histoire à notre époque et une floraison des techniques qui peut nous faire croire qu'entre Cléopâtre et Khéops, il ne s'est rien passé. Alors il s'est passé vraiment, il s'est passé près de 3000 ans.
Et Cléopâtre, qui est au fond, à l'époque de laquelle, qui n'est plus une pharaone, si je puis dire, ou un pharaon égyptien. Il faut rappeler donc qu'au IVe siècle, cet empire égyptien, cet empire des pharaons, est conquis par Alexandre, qu'il devient donc la famille des Ptolémées qui va régner, est une famille d'origine grecque, puis arrive Rome, et que cette Égypte de l'Antiquité, bien, elle passe entre d'autres mains, Bernard Nantais.
Et Cléopâtre n'était pas égyptienne, elle était grecque, mais elle a tellement voulu se faire passer pour égyptienne qu'on imagine qu'elle est égyptienne maintenant.
Oui, parce qu'on
la considère comme égyptienne.
Les Ptolémées se sont bien intégrés à la religion.
Et elle en particulier a voulu adopter la religion égyptienne, les manières égyptiennes. Et maintenant, la plupart des gens pensent qu'elle était égyptienne. Hein.
Et en revanche, Rome, en revanche, va mettre un terme à cela. Sous les Romains, l'Égypte devient une province romaine après Jules César. Et une province très riche, d'ailleurs, c'est encore un don du Nil, mais cette fois-ci, c'est pas l'Égypte, c'est Rome qui va bénéficier de l'agriculture. C'était un grenier à blé, l'Égypte.
Sous les Romains, l'Égypte était une colonie. C'était une colonie qui devait se subvenir à elle-même et rendre en plus, et donner en plus à Rome du blé, enfin, toutes ses productions. Donc c'était vraiment, on pressait l'Égyptien, ce que les Grecs n'ont pas fait.
Alors après les Grecs, après les Romains, vient Byzance, et avec Byzance, une religion qui va faire disparaître progressivement la religion et les dieux égyptiens, c'est le christianisme, un christianisme très particulier le long du Nil, Bernard Nantais.
Oui, on peut s'étonner en se demandant pourquoi, brusquement, on a perdu le sens des hiéroglyphes. On a perdu le sens des hiéroglyphes parce qu'à un moment donné, en 392, un empereur byzantin a décidé de fermer les temples égyptiens. Or, c'était dans les temples où on apprenait les hiéroglyphes, où on apprenait à écrire dans l'égyptien ancien, etc. Donc les gens, du jour au lendemain, ont perdu le sens de l'écriture ancienne et ont adopté le christianisme, mais avec des spécificités quand même très égyptiennes.
Ce sont les Coptes.
Ce sont les Coptes.
Les Coptes d'ailleurs qui supportent assez mal la présence, l'autorité de Byzance, et qui vont finalement relativement peu résister à l'arrivée des Arabes et d'une nouvelle religion qui est l'islam au 7e siècle, Bernard Nantais.
Il faut dire que Byzance était un pouvoir avec beaucoup de fonctionnaires, Byzance avait un empereur qui décidait de tout, qui ne déléguait rien, et qui pressurait lui également le peuple. Donc, pour les Égyptiens, quand ils ont vu arriver les Arabes, qui leur ont promis la liberté par rapport à un pouvoir central, ils l'ont adopté assez rapidement. Pas tous, mais disons, ils ont laissé les Arabes s'installer. Ils étaient bien contents de se débarrasser des Byzantins. Et c'est pour ça qu'ils ont développé un christianisme très particulier et surtout débarrassé de la tutelle de Byzance et de son empereur.
Et puis un christianisme très jaloux aussi de son indépendance, qui était un christianisme autophysite. On ne va pas rentrer dans discussions byzantines sur la réelle nature du Christ qui distingue les Coptes des autres chrétiens. Alors cela dit, quand même, avec l'islam, eh bien l'Égypte, le Nil vont se couper pour très longtemps de l'Occident. On ne parle pratiquement plus de ce qui s'y passe. On a un peu oublié cette civilisation égyptienne, on s'y intéresse beaucoup moins qu'à Rome ou à la Grèce, Bernard Nantais.
Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu la création du catholicisme avec la séparation de l'Empire romain entre l'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident, et l'Empire d'Occident a vécu son propre développement tout à fait en dehors de l'Orient.
Non, mais pour ce qui concerne le Nil et l'Égypte, on sait plus du tout ce qui s'y est passé à ce moment-là pendant une très très longue période.
On s'en est préoccupé parce que ça n'intéressait plus personne. L'Europe avait beaucoup plus de mal au Moyen-Âge à s'occuper d'elle-même, à se développer elle-même.
Et cela pendant des siècles jusqu'à l'arrivée à l'embouchure du Nil des armées françaises de Bonaparte à Alexandrie le 1er juillet 1798.
Général Menou, 22e demi-brigade légère, 13e et 69e de bataille. Contre général Kléber, 2e demi-brigade d'infanterie au complet, 25e, 15e et général
Kléber. Par les plus grands de tous les temps, César, Alexandre et surtout notre grand Bonaparte.
Le général de Cesse sortira dès ce soir sur le Caire. Et Alexandrie?
Avant midi, nous y serons.
Faites battre le ralliement!
Les pyramides, 40 siècles d'histoire nous contemplent.
L'arrivée de Bonaparte en Égypte, sur le Nil, bon, c'est évidemment une aventure militaire, Bernard Nantais, vous le rappelez, mais c'est pas ça qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est qu'on va redécouvrir, avec cette armée française, on va redécouvrir, au fond, l'Égypte de l'Antiquité.
En fait, Bonaparte, l'expédition Bonaparte en Égypte, c'est un peu la même façon qu'on fait les Français par rapport aux Britanniques pour la colonisation, c'est-à-dire occuper un territoire pour ne pas que les Anglais s'y mettent. Donc pour Bonaparte, c'était important d'occuper l'Égypte pour empêcher les Anglais de faire le lien avec leur empire des Indes. Il y avait ça, et puis aussi tout l'imaginaire qui existait quand même.
Et puis tous ces savants avec les arrivent quand même.
Parce qu'entre-temps, il y avait eu les Lumières, on avait redécouvert un peu l'Orient, l'Égypte, etc. Et Bonaparte a emmené avec lui toute une armada, ce qu'on appelait la deuxième armée, la seconde armée de Bonaparte. C'était des savants qui étaient... on ne peut pas dire qu'ils étaient commandés par Monge, mais... qui était un savant lui aussi, mais c'était lui qui avait organisé toute cette expédition d'Égypte sur le plan scientifique. Il avait emmené Vivant Denon aussi, qui était destiné à faire la communication, c'est-à-dire à expliquer aux Français, à montrer ce qu'ils voyaient, à découvrir l'Égypte avec eux, parce que Bonaparte avait des velléités, avait des envies, et pour lui mettre la main sur l'Égypte, c'était renouer avec les intentions d'Alexandre et de tous ses conquérants.
Oui, à l'évidence. Et puis c'était donc des découvertes, cette fameuse pierre de Rosette, grâce à laquelle plus tard Champollion va enfin pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes.
Alors, c'est très curieux, parce que Champollion n'a jamais vu la pierre de Rosette. La pierre de Rosette a été découverte, je crois, en 1801, au cours de fondations par des officiers français. Et quand les Anglais ont forcé le corps expéditionnaire à repartir, ils ont voulu que les savants donnent tous leurs papiers. Et ils ont pris évidemment tous les objets qu'on avait exhumés, en particulier la pierre de Rosette. Bon, ils n'ont pas pu prendre les papiers, mais la pierre de Rosette, ils l'ont emmenée à Londres. Et c'est sur une copie de la pierre de Rosette que Champollion a fait sa découverte en 1922.
Alors ça, c'est l'époque où nous sommes plus, l'Empire est fini, mais il y a une expédition dont vous parlez, dont j'avais vraiment jamais entendu parler, et qui montre bien tout l'intérêt, non seulement pour l'Égypte, mais pour le Nil. C'est une expédition assez extraordinaire qui va remonter très loin jusqu'au royaume de Méroé, l'expédition de Caillou.
Alors Caillou a fait son expédition, enfin il s'est joint à l'expédition du fils du vice-roi d'Égypte à l'époque. Les Français étaient déjà partis, mais la France bénéficiait d'une aura au niveau scientifique très grande, et les Égyptiens se sont toujours reposés sur eux pour les fouilles, etc. Il s'est joint à l'expédition du fils du Khédive, qui voulait remonter le Nil pour soumettre le Soudan. Et c'est une expédition vraiment très sanglante, à laquelle il a participé, ainsi qu'un certain nombre de consuls à l'époque européens, qui, eux, n'avaient pas les mêmes scrupules que lui, et volaient au passage pour nourrir les musées européens. Caillou, lui, voulait découvrir, voulait voir, et il a laissé un journal extraordinaire, et il a découvert Méroé, le royaume de Méroé, avec des pyramides.
Oui, ça on l'oublie toujours, hein. Il n'y a pas des pyramides qu'en Égypte.
En aval de Khartoum, c'est lui qui a fait la première description du royaume de Méroé.
Alors tout cela sans jamais découvrir les sources du Nil, hein. Aucune expédition n'y est parvenue, c'est un très très vieux rêve, pourtant, on y pense, je suppose, depuis Hérodote. Bernard Danté, comment expliquer que l'on n'ait jamais découvert les sources du Nil avant le 19e siècle? C'est quand même insensé. Pour aucun autre fleuve, on a mis tant de temps à découvrir ses sources.
On les a jamais découvertes parce que, du temps des Égyptiens, on pensait que ça descendait, que c'était le domaine des dieux. Donc, il fallait pas aller dans le domaine des dieux, il fallait les honorer, bon, etc. Mais on n'y allait pas. Quand il s'est agi des Romains, bon, eux, tout de suite, ils ont envoyé des légionnaires. Mais les légionnaires ont été bloqués par les marais. Et on ne sait pas trop jusqu'où ils sont allés. Bon, mais ils sont des...
Oui, il faut rappeler, parce que vous en parlez beaucoup, de ces marais qui sont un véritable barrage. C'est très au sud, c'est très au sud, oui, c'est en amont du Nil, au sud du Soudan actuel, je crois, et qui sont vraiment, on s'y perd, c'est vraiment un obstacle considérable, ces marais.
C'est au pied de l'Éthiopie, c'est une immense cuvette dans laquelle le Nil se perd lui aussi.
Qu'on appelle le sud aussi, c'est ça, S-U-D-D.
Le sud veut dire, c'est l'enchevêtrement de végétaux. Donc les gens, les bateaux se perdaient, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc c'était vraiment infranchissable. Et on a attendu longtemps avant de pouvoir faire ça.
Puis, il y avait aussi de la complexité du réseau. On a confondu, on ne sait pas de quel Nil il s'agissait, parce qu'il y a plusieurs Nils. À partir d'un certain moment, il y a le Nil bleu qui va vers l'Éthiopie, plutôt qui vient de l'Éthiopie. Enfin bref, c'est toute une série d'obstacles que surmonteront un jour l'expédition la plus importante qui a été lancée à la découverte des sources du Nil, celle des Anglais John Speke et Richard Burton, qui partaient non pas du nord, puisque justement il y a trop d'obstacles, mais au contraire de la côte de l'océan Indien, pour essayer en allant vers l'ouest de retrouver ou de résoudre une des plus grandes énigmes de l'histoire. C'était en 1857.
L'homme qui découvrira la source du Nil sera encore plus célèbre et plus honoré que n'importe quel de nos officiers. C'est la dernière grande conquête.
21 avril. Selon une légende indigène, la source du Nil est au cœur des terres, en des lieux appelés les montagnes de la Lune. Quelle ironie de penser que ma décision d'explorer l'inconnu m'oblige à être responsable de l'exploitation qui ne manquera pas d'en découler. Car il y a ceux qui, voulant maîtriser le fleuve, domineront du même coup les nations qui dépendent de ses eaux. Demain, départ pour l'intérieur. Nos fonds et nos subsistances sont bien maigres, mais je me suis adjoint à un subordonné britannique, le lieutenant Speke, qui nous apporte armes et munitions.
Et c'était tiré d'un très beau film, Les Sources du Nil, l'expédition justement de ces deux Anglais, Speke, Burton, a parti à la recherche des sources du Nil. En fait, quel intérêt ça peut avoir, Bernard Danté, de trouver les sources du Nil? Parce que c'est la curiosité, simplement.
C'est la curiosité, il y a d'une part la curiosité qui anime les individus et les nécessités qui animent les États et les nations. À l'époque, bon, c'était là. On commençait à avoir des visées impérialistes sur l'Afrique, mais c'était encore très compliqué parce qu'on n'avait pas les moyens. Les Anglais avait commencé à développer l'Afrique australe, et ils avaient quand même envie de joindre le Cap et le Caire. On s'était pas encore vraiment formulé.
Oui. Ça, on y reviendra demain.
Ça allait arriver.
Mais il y a aussi, vous dites que derrière ça, il y a des visées impérialistes. Est-ce que ces deux hommes, d'ailleurs, ont trouvé ces sources? Parce que vous dites, au fond, c'est très bien. On sait maintenant que c'est dans l'Afrique des Grands Lacs, mais on parle des sources du Nil, jamais d'une source unique.
On parle des sources du Nil parce qu'on ne savait pas où elles étaient. On savait qu'il y en avait partout, mais on ne savait pas où étaient les sources du Nil. Alors, ça faisait vagabonder les imaginations, et c'était aussi une époque où beaucoup de gens partaient un peu à l'aventure. Il y avait déjà eu des précédents. Il y avait eu René Caillé pour le Niger. Il y avait eu Mongo Park qui avait pour le Niger également. Et même du temps de Mongo Park, c'est-à-dire près d'un demi-siècle avant, lui, il avait voulu voyager pour donner à son pays les moyens de faire du commerce. Et dans l'idée de René Caillé, c'était un peu la même chose. Donc il y avait aussi, c'était pas seulement la science.
Donc elles sont, ces sources uniles, elles sont bien dans l'Afrique des Grands Lacs.
Elles sont dans l'Afrique des Grands Lacs, les sources les plus longues, la source la plus longue et la source...
La plus éloignée de l'embouchure.
La plus éloignée. Ouais. Mais la source la plus abondante, celle qui nourrit l'Égypte, se trouve en Éthiopie.
Eh bien écoutez, nous continuons cette histoire du Nil demain avec vous, Bernard Nantais, mais pour en attendant, je suggère la lecture de votre livre. Vous êtes l'auteur donc d'une histoire du Nil qui vient de paraître aux éditions du Félin. Vous êtes également l'auteur d'une très jolie encyclopédie illustrée au cœur de l'Afrique, publiée chez Milan Jeunesse l'année dernière, un livre à recommander à tous les enfants. À lire également le Dictionnaire de l'Antiquité, dirigé par Jean Leclan, paru au PUF, et surtout Saqqara, Pierre d'Éternité, un très beau livre de Diane Saroufi Marley, qui vient d'être publié aux éditions Hermé. Vous avez pu entendre des extraits des 10 commandements de Cécile Bédemille, de Napoléon, le téléfilm de France 2 d'Yves Simonneau, Adieu Bonaparte de Youssef Chahine, édité en vidéo par TF1 Productions, et Les Sources du Nil de Bob Rafelson, disponible en vidéo chez Gaumont Columbia. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry et Sophie Moreno, Claire Tesser, Camille Pouget-Laguier et Mathieu Ménossi. Et à la réalisatrice Anne Comilac.